Session Les Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, troisième conférence du 9 septembre 1994.
Paroissien, quand on a la paroisse. a sonné. Et tous les pères et frères sont venus au réfectoire. Il n'y avait que les deux guetteurs et Saint Dominique qui savaient qu'il n'y avait rien. On aurait sans doute pris de l'eau. Et on aurait fait une lecture. Tout était prêt. Et Saint Dominique aurait peut-être dit, mes frères, genoux à l'eau. On aurait écouté la lecture pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, on aurait rendu grâce au Seigneur pour l'eau de notre sœur. Vous voyez, c'était une pauvreté très très forte. Hein. Pas l'oublier, on vivait de la mendicité. Et si on ne recevait rien, mais on n'avait rien. Et alors à ce moment-là, vous savez comment ça s'est passé? Ça s'est passé à Bologne, là où il y a le tombeau de Saint-Dominique. Et là où, chaque année, quand on va pour assister à la messe du Saint-Père, le mardi saint, on s'arrête à Bologne, au tombeau de Saint-Dominique. Et c'est dans ce couvent-là que Saint-Dominique est mort. Et que c'est dans ce couvent-là où il y a eu ce miracle du pain. 2 anges, 2 jeunes gens sont arrivés. Alors, vous voyez, c'est peut-être, aujourd'hui on dirait, oh, c'est pas des anges. C'est parce que ils ont été quittés, on a dit qu'on n'a rien. Et puis ils ont eu un remords. Ça lui a remords terrible. Après ça, ils ont vite été à la boulangerie, ils ont rempli 2 choses et puis ils sont arrivés. Je sors pas, du repas. C'est possible. Après tout, c'est le même miracle, encore mieux. C'est la conversion du cœur. Donc c'est pas uniquement charismatique, c'est la conversion du cœur, c'est encore beaucoup mieux. C'est peut-être ça, c'est peut-être passé comme ça. Selon la tradition dominicaine, 2 jeunes gens. Très beau. C'est-à-dire que des gens, jeunes gens très beaux qui vont faire ça. Hein. Alors, la tradition des anges, d'avoir dit du pain, et du pain frais. Ils ont mangé autant qu'ils en voulaient, avec de l'eau. Mais je crois que la pauvreté s'exprime différemment dans notre siècle qu'au Moyen-Âge. Faut pas imiter matériellement. Différemment en Europe, en France, comme en Hollande, que à Laredo, en Amérique, que dans l'Amérique latine aussi. Et différemment dans chaque pays. Il faut découvrir la petite note particulière qui montre qu'on est des pauvres. Qu'on vit dedans. La même chose pour les autos. Et dans certains pays, si on peut prendre la bicyclette, on prend la bicyclette. Je sais qu'il y a des bénédictins qui n'ont pas et qui se trouvent que... et qui sortent les bicyclettes parce qu'ils peuvent. C'est suffisant pour ce qu'ils ont à faire. Pour nous, c'est pas toujours commode. Surtout aller en bicyclette à Toulouse. Surtout quand on commence à être un peu plus âgé. Pendant la guerre, on n'avait pas d'auto. On allait en bicyclette d'Étiole à Paris régulièrement. Ça faisait quand même un petit bout de route après dans Paris en bicyclette. Ce qui était merveilleux. Donc il faut découvrir cette note de pauvreté, mais il faut qu'elle existe. Et elle existe pour les livres. Le respect qu'on a vis-à-vis des livres. Le respect qu'on a vis-à-vis du papier qu'on nous donne. De ne pas dépenser inutilement comme si ça ne coûtait rien. Non. On doit vers ça. Je ne dis pas qu'il faut se servir nécessairement. Il y avait un père qui faisait ça. Il se servait de ses enveloppes. Il a donné le cours avec des enveloppes. Sur laquelle il avait écrit. recevait toutes les lettres. Elle les renversait, elle les recollait. Et donc, le bénéfice qu'on avait permettait de faire qu'une mère de famille vive d'un salaire. Michelin, François Michelin, avait compris qu'il pouvait faire ça. C'est lui-même qui m'a raconté ça. Ça très beau. C'est l'esprit de pauvreté installé même là où ordinairement l'esprit de pauvreté n'existe pas beaucoup. Et il me disait, c'est très important dans une usine d'essayer quand on le peut. Faire comprendre ce que c'est que l'esprit de pauvreté. Et donc ne pas jeter le plus de choses possible dans une société de consommation. Voilà, je vous demande pas nécessairement les lettres que vous recevez. Il y a un style pour chacun. Mais ce qui est absolument nécessaire, c'est cet esprit de pauvreté. Et faire ses études dans cet esprit de pauvreté. C'est-à-dire, on remet toujours tout au Seigneur. Et on travaille. Et on travaille comme ceux qui doivent gagner leur vie. Parce qu'on gagne sa vie. Thomas d'Aquin le dit expressément, on a le droit à l'aumône si on ne perd pas de temps. Si donc on travaille toute la journée, ou on prie. Et il y a un travail intellectuel pour chacun d'entre nous qui doit être pris au sérieux. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. C'est dit dans l'Écriture. Et donc, nous avons le droit à l'aumône si nous travaillons de nos mains pour faire venir, pour aider la maison à vivre. Intellectuellement, la philosophie, la théologie. Parce que c'est pour le bien commun de la communauté. C'est très important de se rappeler ça. On n'a pas le droit à l'aumône si on est paresseux. Et si on ne fait rien, s'il y a un certain dilettantisme qui se met dans nos études, on ne se met jamais aux études, on n'est jamais dans sa cellule. Quand il n'y a pas d'exigence commune au point de vue de la prière, au point de vue du travail, des cours, on est dans sa cellule le plus possible. On ne visite pas la cellule d'un autre novice. Non. La cellule est un lieu de prière. Il ne faut pas l'oublier. Et on reste là pour travailler, pour prier. Et on aime de prier dans sa cellule. Parce que c'est bon d'arriver petit à petit à faire qu'il y a le lieu de prière. Le petit tapis de prière qui fait que dès qu'on a quelques minutes, on peut prier. Vous voyez ça, une des choses très importantes dans l'esprit de pauvreté, c'est de ne pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps. On a autant que possible, ça on vous le dira, au point de vue manière de travail, il faut très vite trouver sa méthode propre de travail. Au début, elle est commune à tout le monde, en ce sens qu'il y a certains livres qu'on doit lire, qu'il faut avoir lu dans sa première année de philosophie, dans sa deuxième année de philosophie. Je ne parle pas des théologiens, parce qu'eux ont déjà des mœurs au travail, et qu'ils doivent comprendre que le travail personnel est exigé et qu'il est nécessaire. Parce que quand on suit les cours, vous voyez, on peut très bien suivre les cours et ne pas avoir de travail personnel. Ça, c'est pas bon. Quand on suit les cours, on prend des notes si ça nous aide à travailler. On ne prend pas de notes si on a suffisamment d'informations. non pas à partir de l'opinion des autres, mais on se sert sur un sujet donné. Par exemple, on essaiera ensemble de savoir que représente l'amour d'amitié, que représente la liberté, que représente l'inspiration, que représente l'universel. Je vous donne quelques exemples. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Puisque c'est l'année de la famille. Au plan philosophique, qu'est-ce que c'est que la famille ? Comment pouvons-nous défendre la famille s'enracine dans un point de vue naturel ? Alors c'est très important, quand on prend un sujet comme ça, de se faire une petite topique historique, c'est-à-dire voir ce que les grands philosophes ont dit sur ce sujet. Cela pour voir que même parmi les grands philosophes, il y a des oppositions. C'est donc pas si clair. C'est ça qu'Aristote appelle la dialectique. La dialectique hégélienne est tout autre. Et c'est cela qu'il appelle dialectique. Le mot dialectique a commencé là. Voir ce que les hommes pensent. La dialectique, c'est au sujet de l'opinion des hommes. Et on voit ce qu'ils pensent. Et on met ses opinions en ordre. Et à partir de là, le problème se noue. Et on revient à l'expérience. Et on essaie, à partir de l'expérience, d'analyser. On ne fait pas seulement que décrire à partir de l'expérience. Ce qu'on pourrait décrire, un poète décrit ses expériences. Ses expériences internes et ses expériences externes. Quand je touche cette table, ce n'est pas une expérience interne. Je la touche. Je dis, elle existe. Quand je regarde ce qui est sur cette table, je dis, ah oui, tiens, voilà. Ce n'est pas les hommes qui ont fait ça. Et c'est la nature. C'est l'instinct. C'est l'instinct d'oiseau. C'est pas un art. Tandis que la table, c'est pas naturel. Et vous êtes assis sur une chaise qui n'est pas naturelle. Premier discernement philosophique, discerner ce qui relève de la nature et ce qui relève de l'art. Monsieur Test de Valérie. Quand je suis auprès de la mer, certains objets que m'a ramené le flux et le reflux, la marée. Il y a des objets qui paraissent naturels et qui ne sont peut-être pas. l'université du travail. Enfin, quand vous prenez des notes, c'est du travail. Et vous prenez des notes pour ne pas dormir. Et vous prenez des notes pour vous rappeler. Parce que quand on a écrit quelque chose, du moins, pour moi c'est comme ça. Peut-être que pour vous c'est pas comme ça. Mais quand on a écrit quelque chose, on se le rappelle. Quand on l'a pas écrit, sauf si on a une très bonne mémoire, on se rappelle pas. Vous voyez ? Parce que écrire des notes, c'est une nouvelle expérience. Écouter, c'est très bien, mais on est souvent très distrait. On réfléchit à autre chose. Tandis qu'on fixe son attention en prenant des notes. C'est pour ça que c'est bon, ordinairement, de prendre des notes. C'est pas obligatoire. Et c'est bon, parce que ça fixe notre attention. Or, c'est une des choses qui est capitale pour entrer en philosophie. C'est d'arriver à fixer son attention. On ne sait plus fixer son attention. On n'a pas d'expérience d'une chose tant qu'on n'a pas fixé son attention sur une expérience, sur un type d'expérience. Alors, on fixe son attention là-dessus. Et c'est la même chose pour écouter. On fixe son attention, on écoute. Et on s'aide de prendre des notes pour mieux écouter. Et quand on écoute, on comprend. Ou il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les choses qu'on ne comprend pas, on les note. Pour demander qu'est-ce que ça signifie. Vous voyez, un cours de philosophie implique une coopération. Il n'y a rien qui me gêne le plus quand je vois un étudiant distrait et ça se voit comme au bout de son nez. Il y a une grosse araignée au bout du nez. Il est distrait. Il n'est pas là du tout, on voit très très bien. Alors on a beau, hein. Maintenant j'ai plus de voix, alors je ne peux plus le faire. Mais quand j'avais de la voix, je le faisais. Et si continuer d'être distrait. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Soyez poli, quoi. On vous a invité à un cours. Vous êtes venu librement. Non, librement. Dans l'obéissance religieuse. Ce qui est la plus grande des libertés. Vous verrez ça un jour. L'obéissance religieuse nous donne une liberté énorme. C'est extraordinaire, ça, comme expérience. Vous faites cette expérience, savoir écouter un cours. C'est une très grande expérience dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus écouter. Parce qu'on n'écoute pas vraiment quand on écoute la télévision. On n'écoute pas du tout. Parce qu'on fait deux choses en même temps. On regarde et on écoute. Quand on veut écouter vraiment, on ne regarde pas. Vous voyez, sauf quand vous regardez un musicien, un pianiste. Alors pour mieux écouter, vous regardez la manière dont il joue. Ça aide. Mais au bout d'un certain temps, vous fermez les yeux pour mieux écouter. Et puis vous revenez à regarder. Alors je comprends très bien, on peut prendre des notes. On écoute. Vous voyez, il y a prendre conscience de ce qu'on fait. C'est par là que commence la philosophie. Connais-toi toi-même, hein, ce que disait Socrate. Et si Socrate était là, vous savez, il vous dirait ça avec une force. Le monde d'aujourd'hui fait que tout est fait pour que les hommes n'aient plus conscience d'eux-mêmes. Et plus conscience de ce qu'ils font. Alors, on apprend. Et un cours de philosophie implique une coopération. Les étudiants coopèrent avec celui qui enseigne. Et celui qui enseigne, enseigne pour que les autres écoutent et coopèrent. S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de cours de philosophie. Continue de bavarder. Si on dit ça à un professeur, allez, va, continue. voyez, la philosophie, elle commence par coopérer au cours. Elle commence par être attentif au cours. Si on n'est pas attentif au cours, il n'y a pas d'expérience. Et parce que l'expérience forte implique une expérience qui va jusqu'en mobilisant nos sens externes.
Les examens.
Schwarzmann n'est pas philosophique. Il est logique. C'est universel. Le philosophe s'intéresse à la personne humaine et essaie de comprendre ce qu'est la personne humaine. C'est ça qui l'intéresse. Et s'il fait de la métaphysique, c'est pour comprendre la personne humaine. Et c'est à partir de la personne humaine qu'il pourra découvrir une autre personne qui est Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu. Parce que le philosophe ne découvre pas Dieu. Il découvre la nécessité absolue qu'il y ait un être premier absolu, une personne parfaite, une intelligence qui ne cherche plus la vérité, qui est la vérité. Et quand on découvre la nécessité de poser un tel être, on regarde les traditions religieuses. Mais oui, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu relève des traditions religieuses. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas dire « la philosophie prouve l'existence de Dieu ». Mais non, c'est Descartes qui a dit ça. On n'est pas cartésien dans la famille. Descartes est à côté. On le respecte, on l'envoie un petit coup de chapeau de temps en temps pour montrer ses erreurs. C'est la plus grande charité qu'on lui donne. Et Descartes étant, j'espère, au ciel, est très heureux qu'on dise qu'il s'est trompé. Il en est très content. Tandis que ceux qui répètent bêtement Descartes, il fait du purgatoire à cause de ça. Parce que de fait, c'est son influence. Et cette influence n'est pas bonne. Je prends Descartes, je prends Hegel, c'est la même chose. On fait œuvre pie en montrant qu'il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la recherche de la vérité. C'est très grand, ça, de comprendre ça. On doit aimer ceux qui ont cherché la philosophie et ceux qui ont cherché la vérité. Pour saint Thomas, tous ceux qui cherchent la vérité sont nos amis. Ce sont nos amis philosophiques. Mais ceux qui ne cherchent pas la vérité et qui donnent leur sincérité à la place de la vérité, on les salue très bas et on essaie de découvrir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Parce que dans toute sincérité, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, voyez, le point de départ de notre philosophie, c'est l'expérience. Expérience au sens fort, qui implique presque toujours une expérience qui fait manœuvrer nos sens et notre main. On touche, on donne la main. Mais donner la main à une table, c'est autrement que donner la main à un confrère ou à un frère. Donner la main à une table, c'est la serrer. C'est souverainement tous les autres. Puisque moi seul, je suis intelligent. Moi seul, je vaux la peine de vivre parce que je suis intelligent. Tout le reste, non. Alors, vous voyez le tragique de la mort. Un jour, cet homme orgueilleux au possible, qui s'est cru le seul être intelligent, ça craque. La femme de La Fontaine, la grenouille, qui s'est gonflée. Non, c'est comme les pneus, ça éclate. On a découvert que nous étions limités. intelligence au mystère de Dieu. Et d'être en attente de la foi. Et de considérer que la foi, c'est quelque chose de merveilleux comme don divin. Parce que ça donne une réponse à toutes les grandes interrogations philosophiques. Et surtout, ça montre comment l'homme peut avoir soif d'une vraie béatitude, d'un vrai bonheur. Et que ce bonheur n'est promis d'une manière efficace que dans la foi et l'espérance et l'amour. Voyez comment la philosophie regarde l'homme.